Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Laurence Kahn que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Laurence Kahn, qui est psychanalyste, titulaire à l'Association psychanalytique de France, qui était ou qui est, une des questions que je poserai, helléniste puis historienne de formation, anthropologue de la Grèce antique, qui a travaillé une dizaine d'années avec Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Marcel Détienne, et qui, de cette époque-là, a publié, dont il nous reste de cette époque-là, un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Hermès ou les ambiguïtés de la communication ». C'est en 1978. L'ouvrage suivant, qu'elle publiera, apparaîtra en 2000. S'appellera Sigmund Freud II, 1897-1904, au PUF, suivi d'une série d'œuvres tout à fait passionnantes, La petite maison de l'âme, chez Gallimard, Fiction et vérité freudienne, une série d'entretiens avec Michel Hénaudeau en 2004, entretien passionnant sur la situation de la psychanalyse actuelle, Cure d'enfance, parce que Laurence Kahn est non seulement psychanalyste d'adulte, mais est également psychanalyste d'enfant. Faire parler le destin, chez Klingsic en 2005, L'écoute de l'analyste, de l'acte à la forme en 2012, et cette année, elle vient de publier un ouvrage au titre énigmatique, Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne. Je dois également dire qu'en 2001, elle a participé au congrès des analystes de langue française. Elle était un des rapporteurs et elle a publié à ce moment-là, elle a fait un travail tout à fait extraordinaire sur la figurabilité. Pourquoi tout à l'heure je soulignais 1970 et puis 1993 ? Parce qu'il y a un grand espace entre ces deux dates et je me suis dit que c'est pendant ce temps-là que progressivement, Laurence Kahn est devenue psychanalyste. Et pendant ce temps-là, elle a également participé à la rédaction de la Nouvelle Revue de Psychanalyse avec François Gantré et Michel Gribinski, sous la houlette de J.B. Pontalis. Puis après l'inachèvement de cette revue, à l'automne 1994, elle a participé au fait de l'analyse. Et puis après jusqu'au numéro 9, avant la transformation de cette revue en Pensée rêvée, à laquelle elle n'a pas directement participé au comité de rédaction, mais par contre, elle nous a donné de nombreux articles. Avant que Éric Jaïs ne présente véritablement le livre, et puis ensuite Marie Tavasseur, j'aimerais en préliminaire lui poser une question, puisque c'est ces dates-là, entre 70 et 93, qui m'intriguent. J'aurais envie de lui demander, comment devient-on psychanalyste ? Non pas pourquoi, ça ne me regarde pas, mais comment ? Comment devient-on ce qu'on appelle, dans nos jargons, psychanalyste profane ? C'est-à-dire, Laurence Kahn n'est pas médecin. Elle vient donc d'horizons autres que l'univers médical. Et j'avais envie de lui demander, mais comment apprend-on, comment se familiarise-t-on, comment quelqu'un, anthropologue, helléniste, historienne, peut apprendre ce que dans nos jargons on appelle la clinique analytique? Est-ce qu'il faut connaître parfaitement la psychopathologie? Est-ce qu'il faut se mettre au niveau des médecins? Est-ce qu'alors que les médecins, eux, sont invités à quitter leur clinique médicale et leur clinique psychiatrique pour se familiariser et ouvrir la métapsychologie? Alors, Laurence, comment devient-on psychanalyste? À travers l'Institut de formation, bien sûr. Et comment se prépare-t-on à exercer, à travailler, à parler, à penser, à travers ce que ton livre nous dit tellement fortement, la métapsychologie freudienne? Question préliminaire. Qui es-tu?
Voilà, c'est ça, en toute simplicité. Qui
oui, en suis. Toute simplicité.
Ben, c'est la question à laquelle je ne sais pas répondre, et en plus, la question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir envie de répondre. Je ne sais pas qui je suis. Bon, simplement, par rapport à ce que... au problème que tu poses, Hermès, le titre d'Hermès, oui, c'est oui. Hermès passe ou les ambiguïtés de la communication. Oui, oui. Et en réalité, à l'époque, quand j'ai, dans ces 10 années, de 69 à 79, où j'ai travaillé avec Vernon, où j'ai fait ma thèse, et voilà, je me suis intégrée aux études, à la fois, il y avait une compétence d'helléniste qui était absolument obligatoire, une formation d'historienne, puisque quand on travaillait sur la mythologie, on était obligé de passer non seulement par toutes les étapes de la constitution historique d'un mythe, ce que les Allemands avaient très, très très bien fait, mais il fallait donc passer par ces lectures-là, mais en plus il y avait une historiographie du champ d'investigation. Mais en réalité, mon objet, à ce moment-là, ce qui me passionnait déjà, c'était apparemment, sur le territoire de l'analyse structurale, ce qui ne fonctionnait pas dans l'analyse structurale. C'est-à-dire que, par exemple, Vernon avait fait toute une étude absolument remarquable sur Hestia Hermès, c'est-à-dire sur l'opposition entre... ce qui était le cœur de l'enracinement même de la maisonnée, de l'oïkos, et puis de l'autre côté, toutes les voies de circulation et de mouvement qui étaient représentées par Hermès, et son analyse était une analyse qui se dépliait à la fois dans une étude de la spatialité grecque, en même temps dans une étude de ce qu'étaient les frontières, et puis tout ça pris dans le champ langagier. Et déjà à ce moment-là, c'est pour ça que quand j'ai eu la possibilité de travailler sur l'innumérique Hermès, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. J'avais voilà, immédiatement accepté de m'orienter dans ce champ-là. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui, justement, résistait à l'espèce de quadrillage que proposait l'analyse structurale. Et avec Hermès, évidemment, c'était absolument formidable, puisque, outre le fait que c'était un maître en brouillage de pistes, en balayage de frontières, je m'étais rendu compte, et alors là, voilà, premier usage de Freud, je m'étais rendu compte que le mythe d'Hermès accomplissait ce qu'il avait à charge de symboliser dans l'espace grec. Et en particulier, et ça c'est sur la question de l'accomplissement, c'était extrêmement précis ce qu'il brouillait pour le coup, puisque le mythe d'Hermès est en particulier construit sur un sacrifice, et qu'en regardant d'extrêmement près toutes les valeurs sémantiques du vocabulaire sacrificiel dans ce mythe, je m'étais rendu compte que, mine de rien, il inversait le système d'opposition par excellence qui est, dans le partage des viandes, des lots, etc., à l'intérieur du sacrifice, le sacré du côté des dieux et le sacré du côté des hommes. Qu'en réalité, à un moment donné du récit mythique, ces deux données-là étaient inversées, c'est-à-dire qu'il y avait un mésusage de cette opposition, qui est une opposition absolument canonique. Et j'avais donc tiré ce fil en me demandant jusqu'à quel point, au fond, un mythe ne faisait pas beaucoup plus que symboliser l'organisation des places imparties aux humains par rapport aux dieux et à l'intérieur du monde des humains les différentes fonctions, si il ne réalisait pas dans son énonciation même ce que il avait à charge d'organiser au plan symbolique. Et là, évidemment, j'avais le mythe d'Hermès sous les yeux, la littérature absolument immense d'analyse, puisque les analyses avaient été principalement des analyses historiques du mythe. C'est-à-dire, du coup, on arrivait à une fragmentation complète du mythe. Donc tout ça avait été regroupé, je l'avais regroupé, mais dans l'autre main, ce que j'avais, c'était Freud.
Oui.
Ça, évidemment, c'est-à-dire que l'idée que un mésusage était quelque chose qui permettait, dans l'adresse à l'auditoire, puisque tout le problème, c'est qu'un mythe, c'est pas une chose écrite, même si les hymnes homériques ont été fixés au 7e siècle, par écrit, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ils ont été prononcés, c'est exactement comme les poèmes homériques, ils ont été prononcés, adressés, transmis oralement pendant des siècles, disons au minimum 3 siècles avant leur rédaction. Et que c'est dans cette adresse orale, évidemment, que l'espèce de jeu sur les mots avait une efficacité.
Voilà Freud.
Exactement.
C'est ça. Oui.
Ça, c'est au niveau des intérêts qui m'ont quand même animé, je dirais, de 70 à 80, pendant ces 10 années-là. Et alors, pour ce qui est de la formation.
Oui.
Non. La petite maison de l'âme, c'est un livre qui est juste à la jonction entre Hermès et mon travail proprement analytique. C'est-à-dire, c'est le moment où je commence, alors tout à fait ouvertement, à tricoter entre les deux champs. Donc, il y a un texte comme Les maladies impraticables hein, sur Hippocrate, où là aussi, à force d'avoir séjourné dans Freud, je me dis, il y a en réalité une vraie théorie des forces chez Hippocrate et il y a une vraie théorie de la bisexualité qui est extrêmement bizarre, mais qui néanmoins tente de rendre compte à la fois de traits, de caractère, d'humeur, de mouvement, d'équilibrage respectif de passivité et activité à travers la théorie des humeurs. Donc, je commence à tricoter toute cette affaire-là. Je suis revenue, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, je suis revenue, j'ai beaucoup retravaillé sur Hippocrate, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on prend tous les traités hippocratiques, on s'aperçoit qu'il y a une vision d'une lucidité, d'une intelligence sur la psychosomatique qui est absolument impressionnante. Les psychosomaticiens ne se sont pas du tout servis de ces textes très anciens et en réalité ils sont tout à fait pertinents. Mais j'ai refait la même chose avec par exemple au fond une théorisation de l'excitation qui est absolument présente chez Platon. Excitation, Eros, et là c'est pareil, j'ai tricoté mon affaire entre les deux aux grandes dames de mes maîtres, parce qu'ils trouvaient quand même que je commençais à exagérer beaucoup avec la psychanalyse, donc toute cette
erreur. Tes maîtres, ah oui, c'est ça.
Mes maîtres hellénistes, qui avaient une passion quand même relative pour la psychanalyse, oui. Absolument, ce qui, dans le débat entre Anzieux et Vernant, oui. Et Oedipe sans complexe, oui, oui. Était apparu
mais est-ce que tu
extrêmement
dirais
clairement.
Alors que tu commençais déjà à mettre en forme quelque chose qui prend un nom, mais c'est un nom canonique, de psychopathologie?
Alors, est-ce que c'est la psychopathologie? Oui. Moi, je ne dirais pas
oui.
Que c'est la psychopathologie. Je dirais que c'est plus une façon de faire bouger les concepts, de faire justement bouger tout le cadrage de la psychologie et de la psychopathologie. Que par ailleurs, je suis en train d'apprendre très sagement, parce que je ne pensais pas du tout que je pouvais devenir psychanalyste comme ça. Et donc, j'ai repris des études de psychopathologie clinique à Paris 7. J'ai passé tous mes examens, j'ai fait des stages. Et c'est même comme ça que j'ai commencé à travailler comme comme psychanalyste d'enfants, puisque j'ai fait un des stages que j'ai fait était dans une institution où on s'occupait d'enfants et je suis restée. Finalement, ils m'ont gardée. Voilà.
Bon,
le passage s'est fait comme ça. Alors, est-ce que pour moi, j'ai toujours continué à vivre cette première formation comme une chance. Hein.
C'est ça.
Toujours. Absolument toujours. C'est-à-dire que c'est une formation qui précisément m'a permis de ne pas avoir, en tout cas, à me défaire de cette forme-là de prise sur la pathologie que les médecins ont.
Mais par un autre bord, tout autre
et
bord.
Et ils sont obligés de s'en défaire.
Oui, c'est ça.
Absolument. Pour moi, cette formation-là, elle est venue après coup. Elle n'est pas venue d'entrée de jeu, donc elle n'a pas du tout marqué mon champ de pensée de façon déterminante.
Oui.
Quand j'ai refait mes études de psychologie clinique, au fond, je les faisais, mais avec quand même 10 ans d'études grecques derrière qui avaient déjà opéré un quadrillage et un marquage très très fort.
Au fond, tu amènerais à penser le psychanalyste non profane, c'est-à-dire médecin, que d'être analyste profane est une grande chance.
Oui.
Tu penses ça ?
Oui.
Oui.
Oui, même si parfois je me désespère de ne pas avoir fait de vraies études de psychiatrie. Pas de psychopathologie, parce que la pathologie à laquelle on est confronté dans des endroits comme le Coteau ou dans les stages que j'avais fait à Sainte-Anne, etc. Et voilà, c'est une pathologie que l'on approche vraiment de très très près. Et c'est une pathologie extrêmement lourde, très très compliquée. Donc, et puis j'ai été formée par des gens vraiment tout à fait formidables. Mais ça n'est pas, au fond, ça n'est pas la nosographie.
C'est ça.
Quand je suis rentrée dans ce champ-là,
oui.
Je ne suis pas rentrée par le biais de la nosographie.
Oui.
C'est pas du tout la même chose, je crois.
Complètement différent de la formation médicale.
Oui, c'est-à-dire que la psychopathologie, je la prenais auprès de personnes qui étaient des psychanalystes, finalement.
C'est ça.
Parfois des psychologues, mais quand même des psychanalystes, parfois des médecins psychiatres psychanalystes, mais au fond, qui eux-mêmes c'était suffisamment, me faisaient entrer dans ce champ-là en s'étant eux-mêmes suffisamment, en ayant déjà fait le travail de la déprise par rapport à la nosographie.
Ouais. Bon. Eh bien, maintenant, le tableau est dressé. Éric, on vous écoute.
Il y a deux méthodes pour résister aux découvertes de la psychanalyse. L'opposition directe, crier à l'erreur ou la nocivité, est la moins dangereuse parce que la plus flagrante. La seconde est plus insidieuse et beaucoup plus redoutable. On acquiesce aux idées nouvelles, mais à condition de diluer leur signification au point qu'elles puissent être tenues pour inoffensives. L'avant-propos qui introduit votre livre tient en deux phrases ce que vous allez développer ensuite. Il dit déjà la précision et la concision de votre écriture. Vous partez d'une déclaration politique, celle du président de l'Association psychanalytique internationale, Wallerstein, qui en 1987, confronté, écrivez-vous, aux assauts des tenants de différentes théories, self-psychology, théorie narrative, théorie du trauma réel, proposait de considérer les théories métapsychologiques abstraites comme le produit de reconstruction explicative effectuée par les analystes, équivalent alors aux théories cliniques concrètes, permettant de cette façon de garder une langue analytique commune, indépendante des abstractions sécrétées par les besoins personnels des analystes. Cette position est pour vous politique. Pour que soit maintenue, comme l'écrivait Adorno en 1946, l'illusion de la fraternité humaine, et donc, pourrait-on ajouter, l'illusion de la fraternité psychanalytique. Vous nous faites participer avec rigueur à vos investigations d'historienne, reprenant avec précision les écrits des auteurs américains qui, au cours des 50 dernières années, ont ainsi développé, argumenté, une psychanalyse basé sur l'intersubjectivité, où la cure analytique devient une reconstruction narrative, laissant de côté la métapsychologie, l'énergétique freudienne, la pulsion. Vous montrez comment la philosophie continentale du vieux continent, en particulier française, a pu servir cette évolution de la psychanalyse américaine. Par exemple, comment Ricoeur, qui considère la psychanalyse comme une herméneutique, a pu entraîner dans son sillage Schaeffer, qui tire la cure psychanalytique du côté de l'intentionnalité, de la réorganisation du psychisme dans le sens d'une cohérence accrue, d'une narration analytique à l'opposé de la régression et la déliaison. Aussi, les travaux de Lyotard et de Derrida, et l'usage, ou plutôt selon vous, le mésusage qui en est fait par les philosophes pragmatistes, vous citez Rorty, qui semble négliger l'énergétique freudienne pour concevoir l'inconscient comme un partenaire conversationnel, c'est-à-dire encore du côté de la narration, de la liaison, refoulant la césure. Au contraire, vous relevez chez Lyotard ce qu'il appelle l'infancia, ou enfance, non au sens de la période du développement, mais pour nommer l'incapacité à représenter et à lier quelque chose qui n'est pas même refoulé, puisqu'il n'a pas été perçu. Lyotard utilise alors le terme de phrase affect, cette phrase muette de la langue. Au-delà de votre étude des dérives ou des fourvoiements de la psychanalyse, vous argumentez au long de l'ouvrage, et surtout dans les dernières pages, votre conception de psychanalyste. Je rappelle que Lyotard, lui, est philosophe. La psychanalyse a pour objet, ou pour centre, écrivez-vous, ce reste, ces phrases muettes, qui sont des sentiments que l'on doit cependant traiter sans pathos. Je conclurai mon propos avant de passer la parole à Marita Vasseur, qui propose de vous poser une première question, par une phrase qui illustre la précision de votre écriture pour dire l'insaisissable de la cure. La phrase articulée et la phrase affecte ne peuvent se rencontrer qu'en se manquant, et la cure analytique s'inscrit sous le label d'un tel ratage.
Alors, j'ai souhaité faire quelques remarques autour de ces deux mots qui sont déjà dans les titres de votre livre, que vous déployez tout au long de l'ouvrage, apathique et postmoderne. En nous faisant faire une expérience de lecture, parce que vous déployez, vous décondensez à partir de mon propos, tout au long des chapitres, ces deux mots, pour, dans un après-coup de lecture, si je peux dire, dans l'épilogue, ce que vous avez écrit dans l'avant-propos prend tout son sens, lorsque vous parlez de l'empathie, mais dans le sens le plus freudien du terme. Alors, pendant cette lecture, on se sent un peu vacillé. Je me suis même demandé, serais-je moi-même une analyste postmoderne sans le savoir? Mais vous nous invitez à maintenir un éveil, un conflit à l'intérieur de nous, un conflit à l'intérieur de chaque lecteur. Vous tenez une position, vous êtes rigoureuse autour de ces deux concepts, donc apathie et postmoderne, mais au fond, je me suis dit que ces deux mots sont opposés dans le titre même, ils rentrent en conflit. Tout au long du livre, vous parlez donc de cette psychanalyse postmoderne, mais dans le titre, c'est le patient postmoderne. Alors, je me suis demandé si c'est une nouvelle psychanalyse qui s'adapte aux besoins, aux nécessités d'un patient devenu lui-même un patient postmoderne. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, apathique, postmoderne? Patient postmoderne.
Un patient postmoderne, c'est un patient qui a un psychanalyste postmoderne. C'est à peu près ça. Alors, peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être reprendre dans le sens de l'intervention de Éric Jaïs et puis ensuite
Bien sûr.
La vôtre. Mais en fait, les deux se croisent parce que la question politique. Elle est effectivement très très importante et tout particulièrement le point de départ qui a été pour moi Adorno En fait, ça a été un véritable point de départ. Alors, je vais essayer de dire pourquoi. La phrase de tout à fait du début, il y a deux manières de résister à la psychanalyse et la deuxième manière, la première, c'est de pousser des grands cris contre elle et la deuxième manière, c'est d'accepter les idées nouvelles en les transformant de telle sorte que on les réussit à la consommer. À peu de choses près, c'est ça que dira Adorno. Ça y est, c'est fait aux États-Unis. En 1945, elle est consommée. Cette introduction-là, 1920, c'est le président de l'IPA de l'époque, Jones, au moment où il ouvre le premier volume de l'International Journal, dans une période qui est en fait extrêmement difficile historiquement, puisque 1920, les empires centraux, c'est la colonne vertébrale de la psychanalyse, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, vraiment la colonne vertébrale de la Hongrie, de la psychanalyse. Or, ces empires centraux sont littéralement ruinés par la guerre. Le Verlag n'a plus, la maison d'édition n'a plus un centime. Tout est en train d'être récupéré par les Anglais qui essayent de sortir l'analyse de cet enfermement, puisque en plus les analystes des empires centraux n'ont pas le droit de circuler, puisqu'ils n'ont pas de laissez-passer pour sortir de cette zone-là. Donc c'est vraiment une situation politique absolument épouvantable. Et Jones donc se retrouve en charge de l'International Journal, qui est une tentative de relance en faisant sortir la psychanalyse de l'allemand et de cette zone géographique, même s'il y a déjà eu la psychanalyse aux États-Unis, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais il y a, au plan éditorial et au plan des fondations, il y a quelque chose qui va se déplacer. Et Jones, effectivement, c'est un éditorial non signé, dont on sait qu'il a été écrit par Jones, et Jones a des antennes à ce moment-là, parce que rien en 1920 ne permet de penser à quel point ce qu'il annonce va se vérifier. C'est-à-dire qu'il y aura deux manières, effectivement, de s'opposer absolument à la psychanalyse. La manière ouverte et éventuellement d'ailleurs débattante, mais ouverte, en disant c'est du charabia et on vous emmène en bateau. Et une deuxième manière qui consistera à tout accepter, mais en introduisant des conditions de la pratique et donc de la théorie pour justifier la pratique qui modifieront radicalement le cœur même de l'analyse.
Deuxième manière qui est d'ailleurs proposée par les analystes eux-mêmes, alors que la première manière, c'est beaucoup plus périphérique.
Exactement. Oui. La deuxième manière, et Jones se dit, elle viendra de l'intérieur de la psychanalyse. Alors, Adorno, pour moi, est un point de repère absolument essentiel parce que deuxième vague de déplacement, au fond, de l'analyse, c'est évidemment l'émigration, alors là, complète des analystes allemands. Pour allemands et autrichiens, malheureusement pas les hongrois qui n'ont pas vu venir le coup et un bon nombre ont péri dans les camps, mais pour ce qui est des analystes allemands et autrichiens, ils s'en vont soit parce qu'ils sont juifs, soit parce que c'est impossible pour eux de pratiquer la psychanalyse en régime nazi. C'est absolument impossible. Donc ils émigrent. Adorno émigre pour des raisons politiques. Et un bon nombre de toutes ces personnes, d'ailleurs, vont se retrouver ensemble hein, aux États-Unis. Ils ne restent pas sur la côte Est, ils émigrent dans cette petite colonie allemande où il y avait Schoenberg, Thomas Mann, Adorno et quelques autres. Et ce qu'Adorno, durant ce séjour aux États-Unis, au fond, voit, mais en rapproché, c'est la manière dont déjà la psychanalyse est en train de devenir l'objet d'améliorations diverses et variées qui vont absolument dans le sens de ce que Freud avait écrit dans la psychanalyse profane, c'est-à-dire, premièrement, elle ne sera exercée que par des médecins, condition décrétée par l'APSA, c'est-à-dire l'Association de psychanalyse américaine. Deuxièmement, on va s'occuper beaucoup, pour le coup, de la psychopathologie et très très peu des opérations psychiques. Donc, on va se servir d'outils améliorés et surtout, on va perdre de vue quelque chose qui est central pour Freud, central pour Adorno, qui est l'idée qu'une partie de nous-mêmes nous échappe absolument. Et alors, quand on pense qu'Adorno écrit tous les textes, par exemple, de Minima Moralia dans les années d'exil, c'est-à-dire entre 1939 et 1945, avant son retour à Francfort, c'est-à-dire par tant de meurtres, ce qui lui fait s'interroger sur l'échec absolu du mouvement civilisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la psyché humaine pour que le meurtre et la vie tellement durs? Qu'est-ce qui fait que ça ne cesse pas et que ça augmente un petit peu à chaque fois? Et que là, on se retrouve sur le territoire des meurtres de masse. Pendant ce temps-là, les Américains commencent à arrondir la psychanalyse aux Angles pour en faire effectivement le territoire de la fraternité. Alors, tout va passer au filtre du politiquement correct au fil des décennies. Et en particulier, évidemment, tout ce qui, à l'intérieur de Freud, est au fond à la fois le plus spéculatif, mais en même temps, ce qui, pour lui, permet de théoriser, et il a quand même théorisé très 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 en amont de l'irruption du national-socialisme sur la scène politique, c'est-à-dire la façon dont s'organise une foule avec un fureur et la manière dont s'organise l'aliénation à ce fureur. Ce qu'Adorno a parfaitement lu, récupère, met dans sa besace et lui va recommencer à travailler, alors sur le versant de la sociologie politique, mais il ne cessera jamais de se servir de Freud et d'un Freud dont, d'une certaine façon, les Américains ne veulent pas entendre parler. C'est-à-dire le Freud qui s'occupe de la pulsion de mort, qui s'occupe du meurtre, qui s'occupe du surmoi, mais pas du gentil surmoi civilisateur. Non, du surmoi qui, à un moment donné, comme tyran, obtient la soumission du moi et la perte de l'esprit critique. Et c'est ça qui passionne Adorno et qu'il n'est absolument pas question de laisser se perdre.
Et de la sexualité infantile.
Et de la sexualité infantile, puisque, au fond, le pouvoir, et ça, quand je dis que Freud le voit très très tôt, c'est-à-dire la psychologie des masses, c'est 1921. Ça correspond exactement à l'assassinat de Rathenau. Ce qui est quand même très très intéressant, parce que l'assassinat de Rathenau, c'est le moment où la social-démocratie allemande, qui vient tout juste d'être instaurée, subit son premier échec absolument colossal, qui est l'assassinat d'un chancelier qui a le malheur d'être juif. Bon, donc tout de suite, on sent la gravité. Bon, mais la littérature l'a très bien montré aussi. Sébastien Hafner n'avait pas lu Freud et il a très très bien montré ça par son propre biais. Mais tout de suite, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose, c'est-à-dire une espèce de haine érotisée dans le champ politique. Et c'est ça qui va être la pomme de discorde à l'intérieur du monde analytique lui-même. Alors, pour continuer avec la question de Eric, Jaïs, prendre Jones en 1920 et Wallerstein en 87, c'est absolument essentiel. Parce que Wallerstein est, en principe, un représentant de l'ego psychology, c'est-à-dire, non pas la bête noire que l'on a fait.
Il faudrait dire qu'il est président de l'international.
Oui, il est président de l'international.
Donc, il a une place très considérable.
Absolument essentiel. C'est-à-dire que son discours va déterminer une véritable politique théorique du mouvement international. Mais quand je précise qu'il est ego-psychologiste, c'est pour dire qu'il appartient aux États-Unis à la tradition qui vient justement de l'émigration allemande et de l'émigration autrichienne. Grosso modo, les ego-psychologistes, ce courant-là est instauré immédiatement à la sortie de la guerre, hein, en 1945, par, entre autres, Anna Freud et Hartmann et Löwenstein, puisque c'est une troïka. Je n'ai compris qu'il y a extrêmement peu de temps, c'est-à-dire 5 mois, 6 mois, à force de fouiller dans les textes de ces années 1930, 32, 33, 35, qui sont des textes en allemand, je n'ai compris à quoi correspondait la fondation de l'ego psychology que depuis très peu. En fait, le premier texte, c'est pour ça que je parle de tradition qui vient de l'émigration allemande, le premier texte de Hartmann qui indique clairement l'orientation de l'ego psychology est un texte de 1932 en pleine bagarre en Allemagne, à Berlin et à Vienne, où la psychanalyse est prise entre, d'un côté, l'abandon pur et simple de la sexualité infantile par le courant qu'on appellera freudo-marxiste, pour aller très vite, à l'époque représenté par Fromm, qui va émigrer, et de l'autre, l'usage absolument débridé, c'est le cas de le dire, déchaîné, de la notion de pulsion, régulièrement traduit par instinct quand on traduit les textes nazis, mais qui en fait est pulsion dans le texte de Hitler et dans les textes de Alfred Rosenberg. Et donc les psychanalystes sont pris entre ces deux mouvements-là, c'est-à-dire d'un côté un usage du démonique et de la pulsion par les nazis, et de l'autre côté le fait qu'on est en train d'éliminer complètement la sexualité infantile au profit d'une sociologisation de la psychanalyse. Et Hartmann écrit un texte où il tente de recaler la question de l'inconscient avec sa dimension pulsionnelle et sexuelle, tout en disant qu'on ne peut pas traiter de l'inconscient si on ne traite pas en même temps de la prise de conscience. C'est-à-dire si on ne remet pas en piste la question de l'élaboration consciente du jeu inconscient. Donc, effectivement, les ego-psychologistes, ça c'est 32, arrivent aux États-Unis en 45 avec l'idée que oui, l'inconscient, surtout l'inconscient, on ne lâche rien de Freud, d'où une relative rigidité par rapport au traitement que pratiquent les Américains de l'époque, là, ce que Adorno appelle soap opera de la psychanalyse, mais en même temps avec une théorie de la conscience, ce qui est évidemment, au bout d'un moment, vécu comme un appareil théorique extrêmement rigide, qui va être progressivement critiqué, et qui plus est, critiqué par un par un courant qui vient sur le flanc, qui sont les positivistes logiques, c'est-à-dire toute l'école en provenance du cercle de Vienne, qui va commencer à expliquer que de toute façon la psychanalyse n'est pas une science, que tout ça c'est des balivernes, que les psychanalystes sont incapables d'obéir à une logique des preuves digne de ce nom, et que donc la proposition qui est faite, c'est qu'ils passent leur temps à prendre des motifs, des raisons pour des causes, et donc la proposition est faite une bonne fois qu'elle rentre dans le champ des disciplines humanistes et qu'on laisse les sciences aux sciences, aux vraies sciences. Bon, alors la proposition faite à ce moment-là va déterminer, absolument déterminer, la peur des analystes de leur propre objet. Parce que je crois que, au fond, à aucun moment, ils ne bataillent sur la capacité prédictive de la psychanalyse, absolument à aucun moment, ce qui est tout à fait étonnant, car quand même, la capacité prédictive de la psychanalyse existe. Hein, quand on voit des enfants, on se dit, oulala, si on ne fait pas quelque chose, voilà grosso modo quels sont les risques, et on les repère très très bien. Bon, il ne se bagarre sur rien de cela. Au fond, abandonne en prenant appui sur un dilettail vite lu, c'est-à-dire l'opposition entre les sciences dures et les sciences molles, abandonne absolument le champ des sciences dures, accepte purement et simplement que la base freudienne de l'énergétique soit considérée par tout le monde comme obsolète, alors que bien évidemment la question de l'énergétique, elle revient, et elle revient maintenant, c'est une évidence. Freud était très prudent, hein, il disait la question de l'énergétique, on verra plus tard, laissons les biologistes travailler, c'est écrit noir sur blanc. Les physiciens, quand ils ont travaillé sur l'électricité, ne se sont pas demandé d'abord quelle était l'essence de l'électricité. Ils ont fait leurs expériences, ils ont avancé avec leurs modèles, et ça a pris très très longtemps, et c'est en affinant les modèles que progressivement, ils sont parvenus à une définition de ce qu'était l'électricité. Faisons de même, soyons extrêmement sages et ne commençons pas immédiatement par des définitions en masse, et au contraire, continuons à travailler sur la fabrication des modèles, éventuellement les simplifiant, éventuellement les complexifiant, mais continuons par un système à la fois de démonstration et d'inférence. Les analystes ont absolument lâché tout ça.
Tu dis les analystes en général, américains.
Américains, oui. Pas tous, oui, parce oui. que... Je veux dire, dans cette littérature, il y a des gens qui bataillent absolument pied à pied. Mais, par exemple, Meissner est un type absolument formidable. Je veux dire, ses textes, c'est des textes d'une intelligence, d'une lucidité. C'est des textes écrits au moment où c'est en train de se produire. En 79, 82, etc.
Au moment où apparaissait peu à peu le glissement empathique.
Absolument.
La dérive empathique.
Ouais. Et identitaire.
Et identitaire, oui.
Et identitaire, parce que dans ce que disait Eric, il y a une chose extrêmement importante, qui est que à partir du moment où on rentre dans le champ empathique humaniste, c'est-à-dire la connaissance de l'autre par intériorisation de ses mouvements, etc. Bon, d'abord, ça simplifie illico presto, c'est-à-dire immédiatement, on passe de l'empathie à l'affect. La palpation de l'autre, ce qui n'est quand même absolument pas ce que Dilthey propose, mais ce n'est pas grave, ça va devenir palpation de l'affect. La deuxième chose, c'est que la palpation de l'affect se justifie d'autant plus qu'on a des cas de plus en plus difficiles. À côté des cas que connaissait Freud, notre pathologie est effrayante. C'est une pathologie identitaire, avec des cas extrêmement graves, narcissiques, comme si, du temps de Freud, les cas dont s'occupait Freud, ce n'est pas des cas terribles, mais pas du tout. Donc, héroïsation de notre travail d'analyste. Actuellement, nous nous occuperions de cas dont Freud ne s'est jamais occupé. Cas qui nécessitent les plus grandes précautions. Donc là, on voit étage par étage comment tout l'édifice est entamé. Donc, des cas qui nécessitent une extrême prudence, puisque ce sont des patients dont la fragilité narcissique exige toutes sortes d'aménagements. Et évidemment, une grande attention au fait qu'ils ont des repères identitaires extrêmement fragiles, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et on se retrouve de cette manière-là avec un branchement théorique, mais pas que théorique. Si c'était que théorique, moi je m'en ficherais d'une certaine façon. Les théoriciens font ce qu'ils veulent, mais pratique, dans la cure, un branchement direct, clinique, entre empathie, narration et narration identitaire. Et à partir de ce moment-là, la narrativité, c'est-à-dire le récit de soi, comme territoire où se reconstitue le sujet, devient un des axes de la dite psychanalyse. Alors, qu'est-ce qui a été passé par le fond là-dedans? Parce que quand même, c'est... Évidemment, là, je le fais en accéléré, comme diraient les cinéastes. Mais enfin, quand même, 1980, 2015, 35 ans. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Ça va très, 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 très vite. Ce qui est passé par le fond, c'est ce qui est absolument, finalement, inadmissible du premier jour de la psychanalyse, c'est-à-dire une division radicale du sujet. Et que ça, finalement, les humains ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler du fait qu'il y a une partie d'eux qui leur échappe. Ils ne veulent bien en entendre parler que quand cette partie d'eux qui leur échappe et qui n'en fait qu'à sa tête, en général pour le pire, parfois pour le meilleur, mais cela en général l'accepte, je pense en particulier aux artistes, mais en général pour le pire, alors à ce moment-là, ils vont finalement consulter un analyste. Mais c'est quand il y a plus grand chose d'autre à faire. Ils se disent qu'à ce moment-là, oui, il y a vraiment quelque chose en eux qui ne leur obéit, mais absolument pas, et qui ne peut pas, qui se refuse radicalement à se réorienter à l'intérieur d'une représentation de soi en tant que sujet complet, rassemblé, unitaire. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on voit ce qui est en permanence évacué. Alors, vous me direz, les cognitivistes et la psychanalyse postmoderne. Mais j'ai envie de dire, la psychanalyse postmoderne, c'est comme Manhattan, de Woody Allen. Je pense au fond que c'est une psychanalyse interminable. C'est une psychanalyse en forme de coaching. C'est une psychanalyse de conseil, d'aide. Et en ce sens-là, effectivement, elle a de belles heures devant elle. Mais de ce point de vue, elle est sans fin. Quant aux cognitivistes, grosso modo, quand ils ont échoué, ils nous envoient leur cas. Parce que c'est quand même ça qui se passe. C'est-à-dire, quand un cognitiviste ou un comportementaliste a échoué tant et plus, on voit arriver les patients. Ça, c'est une réalité clinique. Alors, un point sur lequel, dans les questions que vous avez tous deux posées, je vais le reprendre par Rorty et le partenaire conversationnel. Au fond, ce mouvement-là, pourquoi est-ce que la psychanalyse américaine s'est servie de Rorty et du pragmatisme américain? Elle s'en est servie parce que c'était comme une suite, au fond une ultime conséquence de la contestation de toute possibilité des chaînes conceptuelles analytiques de correspondre au réel. Ça, c'était le point de départ de la critique des positivistes logiques. C'est, écoutez, vous savez déjà pas ce que c'est que le référent, alors commencez pas à nous parler de réel. Donc, il n'y a pas de correspondance, de vérité correspondance entre vos chaînes conceptuelles et le réel auquel ces concepts réfèrent. Donc, Schlick, 1926, vos énoncés sont des simili-énoncés, comme des poèmes conceptuels. Donc, restez dans la poésie et tout ira bien. Ça, cette critique-là sur la vérité-correspondance a continué à avancer très très lentement à l'intérieur même de la psychanalyse. Et elle a avancé, alors là, en payant le prix fort, qui est l'abandon progressif de la réalité. L'idée que nous sommes, nous, les artisans de la construction de la réalité, entièrement, qu'il n'y a pas de butée du monde, le monde est ce que nous en faisons, et que finalement la théorie que nous avons du monde est la théorie qui est majoritairement accepté par la majorité des humains. Du moment que ça marche, comme dit Rorty, du moment que ça marche, c'est bon. C'est-à-dire une théorie de la vérité qui est une théorie, consensuelle, au sens propre du terme, de la vérité, qui n'est pas propre à Rorty. Hein. Je veux dire, il y a des épistémologues avant lui, Toulmin, etc., qui sont des gens qui ont dit, qui au fond ont relu le travail des épistémologues proprement dit, qui a été un petit peu plus compliqué, hein, Thomas Kuhn, c'est un petit peu plus compliqué quand même, mais qui en ont retenu l'idée que le changement de paradigme dans une science correspond à un changement, à une bascule à l'intérieur de la communauté scientifique qui reconnaît un modèle comme valide parce qu'il rend mieux compte de la réalité. Eux ont continué à avancer là-dessus, mais avec une vision pratique du discours de vérité, qui est que la vérité, Rorty est absolument explicite, la vérité, c'est, on parle de vérité simplement pour se faire plaisir. Mais c'est une affaire de solidarité entre les humains.
Et c'est aussi une affaire de clinique et de pratique, parce que ce que tu dis là a des implications immédiatement dans la pratique de la cure elle-même.
Ah ben, immédiatement, puisque dès l'instant où on va accepter, au nom d'un consensus, que l'inconscient est l'équivalent d'un partenaire conversationnel, comme Rorty le propose, et de l'autre côté, que l'on va abandonner l'écart entre la réalité, hein, das Real, comme dit Freud, quand c'est le monde, et puis la réalité psychique, c'est-à-dire la Wirklichkeit, autre aspect de la réalité, parce que chez Freud, il y a quand même les deux qui travaillent en permanence, et que, en tant qu'analyste, on est constamment à la charnière entre les deux. Comme dit Freud, très bien, il donne un très très bon exemple. Un patient arrive chez vous en s'accusant d'un épouvantable forfait. Ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer qu'il n'est coupable de rien. Tout le monde a déjà essayé de lui expliquer qu'il n'était coupable de rien. Il faut commencer par lui dire qu'il a sûrement raison, mais le problème est de savoir quelle est la nature de ce forfait. C'est-à-dire, qui l'accuse véritablement de forfait?
Et quelle est la fonction?
Au patient, on ne lui dira pas quelle est la fonction.
On regarde la tête.
Ce qu'on pensera.
On peut se poser la question.
Mais Freud, à ce moment-là, dit il y a certainement quelque chose de vrai, etwas Wirkliches, quelque chose de vrai, de réel, dans cette auto-accusation. Bon. L'écart entre le réel et le Wirklich ne veut pas dire que, c'est-à-dire la réalité psychique, en l'occurrence, puisque c'est quand même l'action d'un surmoi parfaitement destructeur, qui peut conduire à une autodestruction, à une destruction plus ample, très évidemment. Cet écart-là est un écart qui disparaît, puisque à partir du moment où nous fabriquons tous la réalité et que l'inconscient est un partenaire conversationnel, on va être dans cette espèce de réalité molle qui est une réalité construite.
Et voilà l'empathie.
Puisque, effectivement, l'empathie est ce grâce à quoi, à coup d'affect, de gentils affects, on va réussir à construire à l'intérieur de nous une représentation du patient et des affects du patient, avec quand même cette idée inimaginable que les affects valident, dans le sens, ont un pouvoir de validation, c'est-à-dire qu'ils sont un facteur de vérité dans ce que nous construisons. C'est l'affect qui se met à valider la véracité du dire, de l'interprétation, de la construction, de l'analyste.
Et de la compréhension.
Bon, ce qui est complètement insensé. Nous savons très bien qu'un rêve va être aussi bien déformé par la couche des transformations à partir de représentations, à partir de représentations anodines, mais il va être aussi déformé par l'affect, bien évidemment. On se réveille plein de compassion pour le personnage qui apparaît dans le rêve, puis on commence à gratter, et oulala, là ça va beaucoup moins bien, et on s'aperçoit que la compassion, qui est un élément marginal, qui a une raison d'être, mais qui est malgré tout un élément marginal, a réussi à occuper le champ de l'éprouvé, de telle sorte que tout ce qui est de l'ordre de la haine et du meurtre a complètement disparu. Mais, ça c'est à propos du rêve, vous prenez un vrai, vrai mélancolique, la plainte et la douleur, mais insondable, du mélancolique, sous la forme des auto-accusations, ne donne qu'une envie, c'est de voler au secours du mélancolique, effectivement, en lui disant « mais vous n'avez rien fait de si grave ». À ceci près qu'on rate le coche, puisque, effectivement, tant qu'on n'a pas mis la main et tant qu'on n'a pas pu déplier dans la relation avec le mélancolique la dimension haineuse, qui est une dimension interne, mais dont on a l'espoir qu'elle va se déplier dans le transfert, la dimension haineuse, eh ben, on n'a pas compris pourquoi un mélancolique par exemple, avant de se suicider, va tuer tous ses enfants pour les protéger des malheurs du monde. Donc là, il y a quelque chose qui est absolument central dans l'affect. C'est-à-dire que l'affect va tromper. Il peut parfaitement déguiser.
Alors, central dans l'affect, central dans la position de l'analyste par rapport à l'affect, et voilà l'apathie.
Oui, et voilà l'apathie. Oui. C'est-à-dire que là où tout nous pousse, c'est pas nous pousserait, tout nous pousse dans l'émotion généralisée à justement fonctionner dans le secours face au caractère pathétique des situations, caractère pathétique mis en scène, enfin constamment mis en scène. Au fond, ce qui est complètement manqué au plan psychique, dans la relation transférentielle avec le patient, ce qui est complètement manqué, c'est justement les sous-couches de cet affect qui, dans le commerce régulier avec le patient, sont des strates que l'on finit par percevoir, mais à condition, premièrement, de ne porter aucun jugement. Donc l'apathie, elle est d'abord de cet ordre-là, ne porter aucun jugement, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni votre vie a été terrible, ni mais vous avez eu une bonne vie quand même, comment c'est-il que vous en soyez là ? Donc ni dans un sens, ni dans l'autre, aucun jugement et aucun jugement sur aucune qualification hâtive de l'affect lui-même, puisqu'il y a l'idée qu'il y a là aussi une espèce de plasticité qui va nous aider à cheminer pour comprendre quel est le ressort de ce qui fait malgré tout le malheur effroyable de quelqu'un, parfois effroyable.
Le chemin est rude pour l'analyste.
Le chemin est rude pour l'analyste, n'est-ce pas ? Absolument. Parce que l'apathie, je crois, reste quand même... Mais ça... Ça, ce n'est pas les modernes qui l'ont découvert, les anciens aussi. Je veux dire, la pathéia, elle ne date pas d'hier.
Oui, c'est-à-dire ?
Ah ben, c'est grec.
L'apathéia.
Ce sont les stoïciens quand même, ça. Mais l'usage qui en a été fait depuis a été quand même très, 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 très différent, puisque c'était une attitude... sociale, c'était une attitude de la pensée et c'était une attitude sociale, les deux mélangés. Bon, alors, le temps a passé. Quand on ouvre le livre de Lacan sur le transfert, le séminaire sur le transfert, le terme d'apathie est utilisé par Lacan en référence justement aux stoïciens. C'est-à-dire cette capacité, cette passibilité, cette capacité d'accueillir et de se laisser affecter sans pour autant convertir immédiatement cette affectation en un système de représentation et d'intervention.
C'est ça.
Alors, très bizarrement, quand Lyotard reprend l'apathie, il ne la reprend pas du côté des stoïciens, absolument pas. Il va chercher apathie, phrase muette, c'est-à-dire phoné, la voix, et l'opposition entre, en grec, phoné et lexis, c'est-à-dire la voix et la partie sémantisée du discours, c'est-à-dire avec une signification, cette opposition-là, il va la reprendre chez Aristote. Il ne la reprend pas du tout, il ne s'occupe pas du tout. C'est très curieux d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de texte où il fasse mention des stoïciens, absolument pas. Et par ailleurs, pour ce qui touche à la phoné, c'est-à-dire effectivement à la phrase muette, à la phrase qui correspond à la manière dont l'enfance a été affectée, oui, sans pouvoir donner de représentation à ce mode d'affectation. Son modèle, c'est Emma, hein, c'est absolument explicite. C'est-à-dire le premier choc, et puis silence.
Et donc après, la question de l'après-coup.
Absolument. Et c'est toute la théorie de l'après-coup qui est utilisée à ce moment-là. C'est-à-dire une théorie des chocs. Cela dit, quand vous lisez Adorno, c'est assez... Ça, c'est je viens de découvrir assez récemment aussi, Adorno a de la même manière une théorie des chocs répétés, qui n'est pas une théorie de la névrose traumatique cumulative, pas du tout, qui est une théorie de chocs répétés avec transformation progressive. Et transformation progressive redoutable, dit Adorno, puisque on peut se trouver avec une transformation progressive dans le sens de l'adaptation. Et là, on se retrouve. Alors, ça, c'est ça qui intéresse. C'est ça qui intéresse Adorno. Chez Lyotard, c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, et là, bon, de même qu'il est allé chercher Apathie, au fond, à partir de Aristote et pour désigner au fond l'absence de pathos chez Freud au moment où Freud se lance dans la partie la plus spéculative de son œuvre, c'est-à-dire au-delà du principe de plaisir. Donc, sans affect, je spécule, j'avance, je fabrique un modèle, on va bien voir comment il résiste ensuite. Et effectivement, après, au-delà du principe de plaisir, il y a psychologie des masses et il y a le moi Elsa. Il y a l'idée que cette phrase muette a sans doute quelque chose à voir avec ce que Lacan nomme la chose. Et là, au fond, il travaille dans le même périmètre, il se sert du même objet qui est l'esquisse. C'est-à-dire, ce que Freud décrit dans l'esquisse, c'est-à-dire le travail de l'enfance, tentant de distinguer l'hallucination de l'objet de désir. Vous voyez, le bébé qui regarde le plafond et qui tète, hallucination de l'objet de désir, et l'autre, en tant qu'il est vraiment là, et qu'il va vraiment nourrir. Donc, Freud met en place toute une théorie du mouvement, de la vérification, à travers la vue, le toucher, tout ce qu'il appelle les traces mnésiques motrices, qui permet à l'enfance, à partir de souvenirs qui ne sont pas des représentations précisément, mais qui sont des souvenirs d'affectation, de distinguer ce qui, dans cet autre qui s'approche, est comme lui, et ce faisant, à travers ces prédicats, ces qualificatifs reconnaissables, et ce qui est absolument autre et ne sera jamais comme lui. Oui. Et ça, c'est l'autre, ce que Lacan reprend à Freud, hein, puisque c'est dans l'esquisse, la chose, la chose.
Bon, eh bien, merci Laurence, merci à tous.